Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours. Par Howard Zinn.
Chapitre 13. Le défi socialiste. Deuxième partie. En 1910, les revenus des travailleurs noirs correspondaient au tiers de ceux des blancs. Malgré les beaux discours du président de l'AFL, Samuel Gompers, en faveur de l'égalité des chances, les noirs restaient exclus de la plupart des syndicats qui composaient l'AFL. Gompers prétendait qu'il ne voulait pas intervenir dans les affaires internes du Sud. « Je considère le problème racial comme une question que vous, citoyens du Sud, devez régler vous-même, sans que les touche-à-tout de l'extérieur ne viennent s'en mêler. » En 1907, à la Nouvelle-Orléans, les docks connurent une grève générale qui mobilisa près de 10 000 personnes, débardeurs, transporteurs et manutentionnaires, blancs et noirs confondus, pendant une vingtaine de jours. Le président des débardeurs noirs, Swan, déclarait à cette occasion : « Les blancs et les noirs n'ont jamais été aussi unis pour un objectif commun. En 39 ans d'expérience sur les docks, je n'ai jamais vu une telle solidarité. Dans toutes les grèves précédentes, on avait joué les noirs contre les blancs. Mais c'est désormais de l'histoire ancienne. Et les deux races se tiennent maintenant côte à côte, dans la défense de leurs intérêts communs. » Il s'agissait pourtant de cas exceptionnels. En général, les Noirs étaient tenus à l'écart des syndicats. W.E.B. Du Bois écrivait en 1913. « Le résultat évident de tout cela a été de convaincre le Noir américain que son plus grand ennemi n'est pas le patron, qui le volait, mais son collègue blanc. » À l'AFL, le racisme était affaire de pragmatisme, au même titre que l'exclusion des femmes et des étrangers, dépourvus pour la plupart de qualifications. L'AFL, composée principalement de travailleurs qualifiés, défendait la philosophie du syndicalisme de métier. Le responsable de chaque syndicat de l'AFL était d'ailleurs appelé « agent de métier », qui prétendait opposer au monopole de la production qu'instauraient les employeurs, un monopole des travailleurs gérés par le syndicat. C'est ainsi que l'AFL parvenait à améliorer les conditions de certains travailleurs tout en laissant de côté la majorité d'entre eux. Les dirigeants de l'AFL touchaient d'importants salaires, frayaient avec les employeurs et se hissaient même parfois dans la haute société. Les dirigeants généreusement rémunérés de l'AFL se mettaient à l'abri des critiques en exerçant un contrôle total sur l'organisation des rassemblements et en s'entourant de malfrats, d'abord engagés pour combattre les briseurs de grève, mais qui servirent ensuite à intimider et à corriger les opposants internes au syndicat. Face à cette situation, terribles conditions de travail et caractère exclusif des organisations syndicales, les travailleurs qui, jugeant que le système capitaliste était à l'origine même de la misère, souhaitaient un changement radical, se tournèrent vers un type nouveau de syndicalisme. Un matin du mois de juin 1905 se tint, dans un local de Chicago, une convention réunissant 200 socialistes, anarchistes et syndicalistes radicaux venus de tout le pays. Ils fondèrent l'Industrial Workers of the World, IWW. Dans son autobiographie, Big Bill Haywood, l'un des responsables de la Fédération des mineurs de l'Ouest, se souvient qu'il ramassa un morceau de bois qui traînait sur l'estrade et qu'il s'en servit de maillet pour ouvrir la convention. « Camarades travailleurs, nous ouvrons le congrès continental de la classe ouvrière. Nous sommes ici pour rassembler les travailleurs de ce pays au sein d'un mouvement dont l'objectif sera de libérer la classe ouvrière de l'esclavage capitaliste. Le but et l'objet de cette organisation doit être de rendre à la classe ouvrière le contrôle du pouvoir économique, des moyens de son existence et de l'appareil de production et de redistribution sans se soucier des patrons capitalistes. » À la tribune, aux côtés de Haywood, se tenait Eugène Debs, dirigeant du Parti socialiste, et Mother Mary Jones, 75 ans, militante active au sein de la United Mine Workers of America. La convention mit sur pied une constitution, dont le préambule affirmait « La classe ouvrière et la classe patronale n'ont rien en commun. Il ne peut y avoir de paix tant que la faim et la nécessité frappent des millions de travailleurs. » et que la poignée d'individus qui forment la classe patronale profite de toutes les bonnes choses de la vie. Entre ces deux classes, le combat doit se poursuivre jusqu'à ce que ceux qui triment se réunissent tous, aussi bien dans le domaine politique que dans celui du travail, pour s'approprier et conserver le fruit de leur travail par le biais d'une organisation économique, de la classe ouvrière indépendante, de tout parti politique, quel qu'il soit. L'une des brochures publiées par l'IWW donne les raisons de sa rupture avec le syndicalisme corporatiste incarné par l'AFL. Pour la seule industrie de l'emballage, le directoire des syndicats de Chicago faisait état en 1903 de 56 syndicats répartis dans 14 syndicats professionnels nationaux différents de l'AFL. Exemple lamentable d'une armée de travailleurs victimes de la division face à la solide alliance des employeurs. L'IWW, dont les membres étaient appelés « Wobblies », souhaitait rassembler tous les travailleurs d'une même branche en un seul grand syndicat, sans discrimination de sexe, de race ou de qualification. Les Wobblies fondaient leur rejet des accords passés avec les employeurs sur le fait qu'ils empêchaient trop souvent les ouvriers de faire la grève, à titre personnel, ou par solidarité avec d'autres grévistes, transformant ainsi les travailleurs syndiqués en briseurs de grève. Les Wobblies prônaient l'action directe. C'est l'action menée directement sur le lieu de travail, par et pour les travailleurs eux-mêmes, sans l'intermédiaire fallacieux des irresponsables syndicaux ou des politiciens intrigants. Une grève décidée, contrôlée et menée par les travailleurs directement concernés, c'est ça l'action. C'est ça l'action directe. L'action directe, c'est la démocratie ouvrière. Dans une brochure de l'IWW, un militant déclarait « Dois-je vous expliquer ce qu'est l'action directe ? Le travailleur sur son poste de travail devra dire au patron quand et où il travaillera, combien de temps, pour quel salaire et dans quelles conditions. » Les adhérents de l'IWW étaient des militants courageux. Contrairement à l'image véhiculée par la presse, ils ne prônaient pas la violence, mais l'autodéfense en cas d'agression. En 1909, à McKees Rocks, en Pennsylvanie, ils prirent la tête de 6 000 ouvriers en grève contre une succursale de la US Steel Company et affrontèrent à cette occasion la police de l'État. Ils jurèrent d'abattre un policier pour tout ouvrier tué. Lors d'une bataille rangée, 4 ouvriers et 3 policiers trouvèrent la mort et parvinrent à maintenir les piquets de grève jusqu'à ce que les grévistes l'emportent. L'IWW ne se contentait pas des grèves. Les grèves sont des simples incidents dans la guerre des classes. Ce sont des démonstrations de force, des manœuvres périodiques au cours desquelles les travailleurs s'entraînent pour une action concertée. Cet entraînement est absolument nécessaire pour préparer les masses à la catastrophe finale. La grève générale qui permettra l'expropriation définitive des employeurs. L'anarcho-syndicalisme progressait fortement en Espagne, en Italie et en France à cette époque. Les travailleurs étaient censés prendre le pouvoir, non en se saisissant de l'appareil étatique par la révolte armée, mais en mettant en panne le système économique au moyen de la grève générale et en s'en emparant ensuite au plus grand bénéfice de tous. Joseph Hector, un responsable de l'IWW, affirmait que si les travailleurs du monde entier voulaient l'emporter, il leur suffisait de prendre conscience de leur solidarité, de croiser les bras pour que le monde soit paralysé. Les travailleurs sont plus puissants avec leurs mains dans les poches que tout l'argent des capitalistes. C'était une idée extrêmement puissante. Au moment même où la croissance capitaliste devenait fantastique et les bénéfices énormes, et au cours des 10 années captivantes qui suivirent sa création, l'IWW représenta une menace pour la classe capitaliste. Officiellement, l'IWW ne compta jamais plus de 5 ou 10 000 membres en même temps. Les gens allaient et venaient, mais on peut néanmoins estimer à 100 000 environ le nombre total des membres de l'IWW. Leur énergie, leur persévérance, leur force de conviction, leur capacité à mobiliser des milliers de personnes en un lieu et à un moment précis, leur conféraient un poids dans le pays sans rapport avec leur effectif réel. Voyageaient partout et nombre d'entre eux étaient des travailleurs itinérants ou sans emploi. Ils militaient, écrivaient, discouraient, chantaient et, pour finir, propageaient leur idéal et leur message. Ils furent la cible de toutes les armes dont le système pouvait disposer. La presse, les tribunaux, la police, l'armée, la violence de rue. Les autorités locales votèrent des lois pour les empêcher de s'exprimer, mais les Wobblies défièrent ces lois. À Missoula, dans le Montana, un pays de scierie et de mines, des centaines de membres de l'IWW arrivèrent dans des wagons de marchandises après que certains d'entre eux eurent été empêchés de s'exprimer. On les arrêta, les uns après les autres, tant et si bien qu'ils finirent par encombrer cellules et tribunaux, contraignant la ville à abroger son arrêté interdisant la prise de parole en public. À Spokane, Washington, en 1909, un arrêté fut voté qui interdisait les rassemblements sur la voie publique. En conséquence, un membre de l'IWW qui tenta néanmoins de s'exprimer fut arrêté. Des milliers de Wobblies convergèrent vers le centre-ville. Ils prirent la parole l'un après l'autre et furent arrêtés. Bientôt, 600 d'entre eux se retrouvèrent derrière les barreaux. Les conditions de détention étaient terribles et plusieurs personnes moururent dans leurs cellules. Mais l'IWW retrouva sa liberté d'expression. Thank you. En 1911, la lutte pour la liberté d'expression se transporta à Fresno, en Californie. Le Call de San Francisco écrivit que c'était une de ces étranges situations qui éclatent soudainement et qui sont difficiles à comprendre. Quelques milliers de gens, dont l'activité est de travailler avec leurs mains, se mettent en route et voyagent en fraude, affrontant les pires difficultés et risquant mille dangers pour venir se faire mettre en prison. En prison, ils chantaient, ils criaient, ils haranguaient à travers les barreaux de leurs cellules des groupes rassemblés à l'extérieur. Ils discutaient à tour de rôle de la lutte des classes et entonnaient des chants. Lorsqu'ils refusaient de se taire, le geôlier appelait les pompiers et ordonnait qu'on les arrosât avec les lances à incendie. Les hommes utilisaient leurs matelas comme boucliers et le calme ne revenait que lorsque l'eau glacée atteignait les genoux des prisonniers. Lorsque les autorités de la ville apprirent que des milliers d'autres militants prévoyaient de s'y rendre, elles levèrent l'interdiction de s'exprimer dans les rues et relâchèrent les prisonniers par petits groupes. Même année, à Aberdeen, Washington, même scénario. Décret contre la liberté d'expression, arrestation, prison et, contre toute attente, victoire. L'un des hommes arrêtés, Payne le Courteau, charpentier, ouvrier agricole et rédacteur en chef d'un journal, écrivit au sujet de ces événements. Ils étaient là. 18 gars dans la force de large, dont la plupart avaient parcouru aussi vite qu'ils l'avaient pu de longues distances sous la neige en traversant des villes hostiles, sans argent et affamées, pour rejoindre un endroit où l'emprisonnement était le plus doux traitement auquel ils pouvaient s'attendre. Un endroit où de nombreux autres avaient déjà été traînés dans la boue et quasiment battus à mort. Pourtant, ils étaient là, riant comme des enfants, devant ces événements tragiques qu'ils considéraient comme de simples blagues. Qu'est-ce qui motivait ces hommes? Pourquoi est-ce qu'ils étaient là? Le besoin de fraternité chez l'être humain est-il plus fort que la peur ou l'inconfort? Et ce malgré l'énergie dépensée depuis 6000 ans par les maîtres du monde pour extirper cette soif de fraternité qui habite l'esprit humain? À San Diego, on demanda à Jack White, un wobbly, arrêté en 1912 au cours d'une rixe pour défendre la liberté d'expression et condamné à passer 6 mois dans la prison du comté, au pain et à l'eau, on lui demanda s'il avait quelque chose à déclarer au tribunal. Un sténographe enregistra sa réponse. Dans son réquisitoire, adressé au jury, l'avocat général m'a accusé d'être monté à la tribune lors d'un rassemblement public pour y déclarer « Au diable les tribunaux ». Nous savons bien ce que vaut la justice. En mentant, il a pourtant dit une grande vérité. Car s'il avait cherché au plus profond de mon âme, il aurait découvert cette pensée que je n'avais jamais exprimée jusqu'à maintenant, mais que j'exprime aujourd'hui. Au diable, les tribunaux, je sais bien ce que vaut la justice. Maintenant que, assis dans ce tribunal, j'ai pu voir jour après jour défiler mes camarades de classe, devant cette soi-disant cour de justice. Je vous ai vu, juge Sloane, vous et d'autres de votre espèce, les envoyer en prison parce qu'ils osaient s'en prendre au sacro-saint principe de la propriété. Vous êtes devenus aveugles et sourds aux droits des hommes à la vie et à la recherche du bonheur, et vous avez bafoué ces droits afin de préserver le sacro-saint principe de propriété. Après cela, vous me dites de respecter la loi. Pas question. En effet, j'ai violé la loi, comme je continuerai à violer chacune de vos lois, et à me présenter devant vous en déclarant « Au diable les tribunaux !» L'avocat général a menti, mais je prends ce mensonge pour une vérité, et je continuerai de dire, afin que vous, juge Sloane, vous ne vous trompiez pas sur mon attitude, « Au diable les tribunaux, je sais bien ce que vaut la justice !» sûr, il y eut des coups, des plumes et du goudron, des défaites. En 1916, à Everett, Washington, 200 volontaires armés réunis par le shérif tirèrent sur des Wobblies, faisant 5 morts et 31 blessés. 2 miliciens furent également tués et 19 blessés. L'année suivante, alors que les États-Unis entraient dans la Première Guerre mondiale, des volontaires du Montana capturèrent un des responsables de l'IWW, Frank Little, et le pendirent à un chevalet de chemin de fer après l'avoir torturé. Joe Hill, un autre responsable de l'IW, écrivit des douzaines de chansons, à la fois ironiques, drôles et inspirées, qui parurent dans les revues de l'IW et dans son Little Red Songbook. Il devint une véritable légende. Sa chanson, Le prédicateur et l'esclave, s'en prenait à une des cibles favorites de l'IW, l'Église. Une autre de ses chansons, Rebel Girl, lui fut inspirée par la grève des ouvrières des manufactures de textiles à Lawrence, Massachusetts, et en particulier par la responsable Woobly de la grève, Elizabeth Gurley Flynn. Il y a des femmes de toutes conditions dans ce monde étrange, comme chacun sait. Certaines habitent de magnifiques propriétés et portent les plus beaux vêtements. Il existe aussi des reines et des princesses véritables dont les charmes sont faits de diamants et de perles. Mais la demoiselle unique et parfaite, c'est la rebelle. En novembre 1915, à Salt Lake City, dans l'Utah, Joe Hill fut accusé d'avoir assassiné un épicier au cours d'un cambriolage. Aucune preuve évidente de sa culpabilité ne fut apportée au cours du procès, mais on présenta assez de pièces à conviction pour persuader un jury de le déclarer coupable. Le verdict fit le tour du monde et 10 000 lettres de protestation furent adressées au gouverneur. Tandis que des mitrailleuses protégeaient l'entrée de la prison, Joe Hill passa finalement devant le peloton d'exécution. Juste avant de mourir, il avait écrit à Bill Haywood « Ne perdez pas de temps à me pleurer. Continuez la lutte. »
Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours. Par Howard Zinn.